بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant tout, mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la possibilité de jeûner ces 30 jours de Ramadan. Allah a donné la possibilité à chaque musulman, à chaque musulmane de se rapprocher de lui d'une telle façon, d'une telle manière, à une telle intensité que jamais durant les 11 autres mois de Ramadan, même si nous passions nos journées dans les jeûnes nafil et nos nuits dans le qiyam ou l'ail de tahajjud, jamais on n'aurait pu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un musulman peut le faire ou a pu le faire durant ce mois de Ramadan. Nous rappelons, ce n'est qu'un rappel, que durant ces 30 jours de Ramadan, à chaque fois qu'on s'était réveillé pour le sihri, pour le repas du matin avant le début du jeûne, alors Allah Ta'ala nous a annoncé par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait là des groupes d'anges qui étaient présents et qui faisaient doua pour chaque musulman, chaque musulmane réveillé à l'heure du sihri. Également, au moment de rompre le jeûne, là également, les doigts du jeûneur étaient acceptés, ne serait-ce qu'un seul doigt. Et si nous cumulons les 30 jours de somme, les 30 jours de jeûne, ce sont là 30 doigts qui, au moins, ont été acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait qu'en chaque nuit de ce mois de Ramadan, Allah ta'ala a délivré quantité de personnes du feu de l'enfer. Et les hadiths précisent bien que c'était là des gens qui sont musulmans, comme vous et moi, et qui, à cause de leurs péchés, étaient destinés à l'enfer. Mais durant ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala a décidé de les délivrer du feu de l'enfer. Ainsi de suite, ce n'est là qu'un rappel de ce qu'on a déjà entendu maintes et maintes fois durant ce mois de Ramadan. Ce que nous venons de vivre, mes chers frères, c'est quelque chose d'énorme. Nous ressortons de ce mois-là grandi avec un acquis spirituel et également un cumul de thawab, un cumul de bonnes actions, comme jamais on n'aurait pu cumuler durant les 11 autres mois de l'année. Maintenant, quand un musulman il ressort de ce mois de Ramadan avec autant de choses, avec autant de bienfaits et autant de hasanat, il est important que ce musulman, que chacun d'entre nous, on fasse le niyat de istiqama, on fasse le niyat de constance et de progression de la religion. Parce que le musulman intelligent, c'est celui qui, d'année en année, il progresse dans son dîn. D'année en année, il va comprendre que plus les années passent, on nous enchaînons 2006, 7, 8, 9, hein, les Ramadan se sont enchaînés, plus les Ramadan s'enchaînent, ça veut dire également que nous approchons du moment fatidique, du moment final. Bien que l'ange de la mort, il est de plus en plus proche de nous. Les années qui passent, c'est des années en moins. Un jour de passé, c'est un jour de moins à vivre sur ce dunya, et c'est un jour qui nous rapproche encore un peu plus de la mort de Malik al-Maut. Donc le musulman intelligent, il sait que après chaque Ramadan, comme j'ai suivi, on pourrait dire, un stage intensif en termes de ibadat, en termes de contrôle du nafs, en termes d'éloignement total de tout ce qu'Allah Ta'ala n'aime pas, je ressors de ce stage intensif, là je dois en ressortir grandi avec des acquis, avec de bonnes intentions. Et les bonnes intentions sont sur deux axes. Le premier axe, c'est sur le istiqama ala al-a'mal al-saliha, la fermeté dans l'accomplissement des bonnes actions. Les bonnes habitudes qu'on avait déjà bien sûr, mais les ibadat qu'on a un peu plus, de lequel on a un peu plus progressé durant ce mois, ou certaines actions qu'on ne faisait pas, qu'on a commencé à faire, nous devons faire le niyat de continuer dans cette lancée, de continuer dans ces actes d'adoration. Ça c'est la première axe de istiqama. Istiqama, fermeté, constance dans ce qu'on faisait. Et maintenant l'autre axe de istiqama, c'est de continuer à rester éloigné des harams dont on restait éloigné durant le mois de Ramadan. Si durant ce mois, depuis le soir où on a vu la lune, jusqu'à le soir où on a retrouvé la lune du Eid, mais j'espère plus, on s'est dit, on a fait l'effort de contrôler notre regard et qu'on n'a rien regardé de mauvais durant ces 30 jours, ou autre péché, quel que soit le péché, on doit faire le niyat de continuer. Il n'y a aucune raison qu'un musulman il comprenne le caractère haram, prohibé, interdit d'une action pendant une période limitée de 30 jours, et qu'après ce mois ou ces 30 jours, il se décide, ou alors il se dit que tout compte fait maintenant, cette action n'est plus haram. Non, la seule chose qui n'est plus haram, c'est manger et boire. Ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Ce qui était haram durant les journées du Ramadan. Mais ce qu'on ne faisait pas, alhamdoulilah, en termes
par exemple, contrôle du regard, mais également par rapport à la langue. On s'abstenait des assemblées, on faisait le ribat, le bohtan, les calomnies, etc. C'est, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Voilà, en termes de akhlar, de notre comportement, si quelqu'un nous provoquait ou nous insultait, on ne répondait pas, on faisait preuve de patience, on montrait nos bons côtés, si on en a, on montrait nos bons comportements, ben, nous devons rester, hein, il n'y a aucune raison à se dire que maintenant, après le Ramadan, ce genre de choses n'est plus à se reproduire. Non, le musulman intelligent, il va continuer à rester éloigné de ces mêmes choses qui sont haram ou alors même makro. Ce musulman-là, c'est vraiment quelqu'un qui ressort grandi du mois de Ramadan. Il faut savoir que le prophète sallam dit le hadith « Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla » Les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont accomplies avec constance. Allah ta'ala ne regarde pas là la quantité. Allah ta'ala ne regarde pas hein, les actions qui sont faites pour le show, pour montrer aux gens, pour faire une fois, pour que tout le monde en parle, et puis c'est fini. Non, Allah regarde qu'est-ce que le musulman il fait tout d'abord avec sincérité, et ensuite ce qu'il va faire de manière constante. Il est mieux, ça c'est un exemple classique, il est mieux de lire hein, un ruku, deux ruku tous les jours, plutôt qu'une fois de temps, une fois par mois, on va lire trois ou quatre sipara. C'est ce qu'on appelle l'istiqama, hein, al-mudawama, faire une action de manière constante. Cette action-là est acceptée et appréciée. Tous les actions sont acceptées, Inch'Allah. Cette action-là, ce genre d'action est appréciée et aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle maintenant de istiqama, de fermeté, de constance dans les bonnes actions, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de rester ferme dans nos salats. Toutes les personnes qui sont présentes de ce majlis, assurément nous sommes constants dans notre salat, et alhamdulillah pour la plupart d'entre nous, constants dans notre salat avec jamaat. Faïd, maintenant, même dans l'accomplissement de la salat, mes chers frères, il y a une marge de progression. On n'a pas à se dire que bon, si un jour on entend un bayan sur le namaz, on n'a pas à se dire que moi ça ne me concerne pas parce que je fais namaz depuis 25 ans ou 30 ans, même depuis un an. Non, dans chaque ibad, ça il faut qu'on comprenne bien, on intègre ça vraiment de nos, pas de nos cerveaux mais de nos cœurs, que n'importe quelle bonne action qu'il y a de l'islam, même si on le fait depuis 15, 20, 30 ans, il y a toujours une marge de progression. Et notre modèle dans chaque ibadat restera les sahaba. Si notre namaz un jour arrive comme le namaz d'Abu Bakr al-Siddiq ou Umar ibn al-Khattab, là on pourra dire que notre namaz est complet. Si notre jeûne, notre Ramadan, un jour arrive comme le jeûne de Uthman ibn Affan ou de Ali ibn Abi Talib, là on pourra dire que notre jeûne est complet, c'est le bon somme. On n'a plus de marge de progression. Mais tant que ce n'est pas le cas, et ce ne sera jamais le cas, on doit bien comprendre que même mon namaz, si je le fais depuis l'âge de 15 ans et que là j'ai 40 ans ou 50 ans, 60 ans, il y a toujours une marge de progression en termes d'assiduité, dans les prières en congrégation, salat avec jamaat. Évidemment, si on peut arriver un peu plus tôt, premier saf, ça c'est alhamdulillah, nourun ala nour, c'est l'idéal. Également dans la concentration. On a tous une marge de progression dans notre concentration dans la salat. Il n'est pas normal, je parle pour moi en premier, que dès que le imam a déjà dit wala dalin amin et qu'il commence au surat, on a juste écouté quoi il vient de lire et puis on a déjà décollé là, c'est parti. On est parti soit de notre examen, soit de les devoirs qu'on a à faire, soit de notre travail, soit un contrat qu'on a engagé, soit le commerce, soit je ne sais quoi. Ce n'est pas normal. Mais si on avait des détecteurs de pensée, Inch'Allah cet appareil n'existera jamais. On découvrirait des choses adjibes. Si un détecteur de pensée existerait, ben, et si on analysait la pensée de chaque moussalli dans namaz, ben, on verrait tous les scénarios de films possibles. Il y a les films d'action, les films d'aventure, les films de Kuala Lumpur, il y aurait Secret Story, il y aurait tous les matchs, tout est possible. On verrait toutes sortes de choses, nasallallahu alayhi wa sallam, Allah musta'an, mais Allah ait pitié de nous. Donc on comprend bien que on doit, si on est constant dans notre namaz, alhamdulillah, mais je dois essayer maintenant de travailler ma concentration. Il y avait une question qui a été posée par un jeune frère récemment, et ça, ce genre de question m'avait étonné, parce qu'on avait plutôt posé des questions étranges, qui est caractéristique des jeunes à notre époque, mais il y avait des questions un peu, subhanallah, mais c'était une question vraiment de spiritualité. Il m'avait demandé, ben, depuis que je suis petit, dans Madrasa, Moïsa avait dit que quand il fait namaz, il faut faire namaz avec concentration. On entend ces deux termes, khushu' et khudu', d'accord, avec concentration et dévotion. Il dit, ben Moïsa, comment faire namaz avec concentration? Comment lorsque le imam il lit, bon, elle est encore maghrib. Si l'imam y a wal asri, qul wallahu ahad, on est heureux, mais surat al-fajr. Elle dit quand l'imam il tient aux deux pages et demie, quoique de nos jours il n'y a plus de namaz aussi long, alhamdulillah, mais quand l'imam lit de manière très longue, ou alors pire encore, ou alors mieux encore, on pourrait dire plutôt, durant le tarawih, lorsque certains ils lisent très long, des longs recours, ben comment humainement est-ce possible de rester concentré durant les 20 rakats? Humainement, c'est difficile. Hein, nous ne sommes pas des malaïka, nous ne sommes pas des anges, mais on a expliqué à cette personne que, premièrement, ce n'est pas le but du programme, mais c'est moufide, c'est intéressant. En parenthèse, le Centre islamique, si je ne me trompe pas, a imprimé un petit livre là-dessus. Comment se concentrer de la namaz. Un livre qui a été distribué gratuitement. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'au nom, mais à Saint-Pierre, le distribuer durant le mois de Ramadan, c'est gratuit. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Donc, on a expliqué à cette personne que déjà, essayer de comprendre que lorsqu'on fait namaz, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce n'est pas une gymnastique, ce n'est pas un rituel. Alors que malheureusement, de nos jours, beaucoup de musulmans accomplissent les actes d'adoration comme un rituel, sans comprendre le sens et l'âme, le ruh de ce ibad. On a dit à ce jeune, comprends bien que lorsque tu te mets debout, tu dis Allahu Akbar, tu as établi une connexion entre toi et Allah. C'est comme quand on va sur Internet, quand on a cliqué sur Mozilla, Firefox ou Internet Explorer, quel que soit le programme, quand vous avez eu la connexion, ben, c'est une quand vous êtes connecté à tel hébergeur, à tel serveur, ben, c'est une connexion directe, c'est un haut débit, illimité, tout ce que vous voulez, une connexion directe avec Allah. À partir du moment où j'ai commencé le takbir, Allahu Akbar, je suis en face de la Qibla, dès qu'il y a le imam ou alors un namaz tout seul, également Mounfarid, Allah me voit et je dis, on va même plus loin, Allah m'observe. C'est plus que Allah me voit, parce qu'Allah il voit tout le temps. Allah il m'observe, Allah m'entend et Allah il sait également ce qu'il y a dans mon cœur. Quelles sont les pensées que j'ai en ce moment dans mon cœur. Donc si on arrive à se figurer qu'on est devant Allah, mais ça c'est un stade difficile à atteindre, ça c'est ce qu'on appelle al-ihsan, qu'on adore Allah comme si Allah nous voit. Et quand on ne voit pas Allah, on est conscient qu'Allah me voit. Celui qui atteint ce degré, il devient presque comme un ange. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fera plus de péché. Parce qu'il sait qu'Allah, il est conscient qu'Allah il le voit n'importe quand. Que ce soit à la masjid, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans la rue, dans le bus, en voiture, etc. Allah me voit. Donc, dans cette situation, comment est-ce qu'on peut continuer à faire des péchés? Donc, elle dit premièrement, essayons de comprendre que Allah nous observe et on est devant Allah lorsqu'on fait la salah. Et puis, on a essayé de faire comprendre à cette personne que l'idéal, ce serait d'arriver à ce stade de ce qu'on appelle At-tadabburu bi ayatillah, c'est-à-dire que tout le temps je ressasse la même chose, je sais, mais peut-être qu'un jour ça rentrera dans nos cœurs, dans mon cœur en premier. Essayons d'arriver à ce niveau où on peut méditer sur la profondeur des versets du Coran. Qu'on arrête une fois, on dira une fois encore, qu'on arrête de se suffire de nos belles lectures, de notre lecture avec Saba'a ou même Ashara, avec notre tajwid, notre prononciation qui est exemplaire, qui est enviée par toutes les îles de l'océan Indien et par les îles du monde entier. On arrête de se gargariser avec nos performances en termes de lecture du Coran et qu'on essaie nous-mêmes de faire une recherche pour avoir un lien plus direct avec le livre d'Allah. Parce que si notre prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, et là je tiens à préciser Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et là on ne va pas dire Mahomet. Parce que bon, il y a des gens qui ont des œillets. Hein, ils disent que, ouais, Moussa, Abdel Bayan, Id, de ma caméra, Refo, on l'a dit Mahomet. Et Abdel al-Halal. En 20 minutes d'intervention, il y a des gens qui ont retenu que le terme Mahomet. Allah Musta'an. C'est des gens qui viennent d'un masjid avec un microscope. Et ça ne m'étonne pas que, je ne sais pas, est-ce que c'est spécifique de Saint-Denis, ce genre d'attitude, Allahu A'lam. Mais il y en a qui n'ont rien retenu si ce n'est qu'on a dit devant les caméras Mahomet. Moi, j'essaie de faire comprendre à cette personne que, oh, mon frère, est-ce que dans le bayan de Jumma, est-ce que vous m'avez entendu dire Mahomet? Il n'y a aucune saveur de dire Mahomet. On dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'essaie de comprendre, quand on fait ce genre de programme, ce n'est pas un bayan local. On est dans une mosquée sans être dans une mosquée. Difficile de ne pas s'emporter quand il y a de telles réactions. Alors, on essaie de faire comprendre à cette personne qu'on est dans une mosquée sans être dans une mosquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens de toute confession, et peut-être même en dehors de la réunion, qui écoutent le discours. Alors si dès le départ, j'ai le Nabi Karim Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il comprend, lui, la personne? Qui écoute peut-être une première fois un discours sur l'islam. Il ne connaît pas c'est qui. Alors que même quand on fait des visites de masjid, ben, si vous êtes école avec moi dans toutes les masjid, ben, comment il était fait? Il dit, ouais, pourquoi on dit Adam? Pourquoi on dit Noé? Pourquoi on dit Abraham, mon frère? C'est des gens qui ne connaissent peut-être pas Noé, l'autre. Ils ne connaissent pas. Donc, on explique comme eux, ils connaissent dans la Bible ou dans leur enseignement au catéchisme ou autre. Ils connaissent le nom des prophètes de la manière francisée, de la manière en français. Pareil pour Mohammed, une première fois, on dit Mahomet, pour qu'on comprenne bien de qui on parle. Ça, c'est une question pédagogique, pour que les gens y comprennent. Et ensuite, on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il y en a qui viennent avec un esprit objectif, retenir ce qu'il y a de bien. Il y en a qui viennent juste pour Allah, musta'an. Bon. Enfin, ça c'est une petite parenthèse. Donc, parenthèse qui nous amène très loin, je ne sais plus de quoi en parler. On disait que notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a enseigné qu'il nous a laissé ces deux choses avec lesquelles nous serons sauvés, quelles que soient les époques, quelles que soient les fitnas, quelles que soient les régions du monde où on va habiter, le Coran et ses paroles, ses ahadith, la sunna, avec l'interprétation des ulama hadith, des madahib, ça il n'y a pas de doute. Hein, donc dit, si le Coran est censé nous sauver des fitnas, est-ce que ce Coran qui nous sauve, c'est juste un Coran qui est lu à la sauvette, qui est lu avec une voix parfaite, mélodieuse, rythmée avec le tajwid, mais dont on ne saisit même pas 1% du sens? Si nous n'avons pas une relation spirituelle avec le Coran, ben où est-ce qu'on va? Alors que on dit clairement les chrétiens lisent la Bible, oui ou non? Et la Bible, ils le lisent en quelle langue? Est-ce qu'ils le lisent en, comment on appelle encore cette langue-là, subhanallah, dans la passion du Christ là, araméen? Est-ce qu'ils le lisent en, pas en latin, la langue que Jésus, Isa al-Salam, parlait? Est-ce qu'ils le lisent dans la langue originale ou ils le lisent en français? Ils le lisent en français. Je ne veux pas dire pour autant qu'il faut le Coran en français. Non, le tawab, c'est pour la lecture en arabe. Mais en plus de lire notre Coran en arabe, chacun d'entre nous, qu'on n'a pas besoin d'être alim pour ça. Il y a des livres qui sont imprimés, il y a des tafsirs, Ibn Kathir, je vous donne l'endroit où on vend aussi, mais on va faire de la pub. Il y a tafsir Ibn Kathir en 8 volumes qui a été traduit en français. Pour Fawzi Shaban, une excellente traduction. Qu'est-ce que ça nous coûte un jour de prendre Qul Huwallahu Ahad, de s'asseoir, de lire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah dit dans ces trois lignes? Iza ja'a Nasrullahi wal Fath, c'est quoi le Fath? C'est quoi Nasrullah? C'est quoi Dukhul fi dinillahi afwaja? Inna a'tainaka al-kawthar, alhamdulillahi rabbil alamin. Si chaque musulman arrivait à faire un chemin vers Allah par le biais du Coran, qui est la meilleure des méthodes pour arriver auprès d'Allah, pour accéder à la science religieuse, si chacun faisait son chemin en comprenant, en méditant sur le sens des versets, bien assurément, lorsque l'imam lit dans la salat, et si on comprend ce que l'imam lit, on voit de quoi il parle, ben alhamdoulilah, c'est un facteur non négligeable pour la méditation, pour méditer, pour faire tadabbur, pour se concentrer dans la lecture et donc se concentrer dans la salat. Sûrement quand on voit Makkah, Madina, on entend l'imam qui lise et on voit les Arabes qui pleurent et tout, ben c'est pas qu'il pleure parce qu'il est triste, qu'il est chagrin et ou il a faim ou autre chose, c'est bien, il pleure parce qu'il comprend qu'est-ce qu'Allah est en train de dire dans le Coran. Et la compréhension, ce n'est pas juste une compréhension littérale, parce qu'il y a bien des koufars qui écoutent le Coran. Il y a bien des koufars qui lisent la traduction mais ne pleurent pas, mais lire la traduction avec le tafsir, parce que la traduction, c'est tellement difficile, le Coran, tellement profond, qu'on ne peut déceler le sens à travers une simple lecture. Il faut avoir recours au tafsir. Donc, ça, c'est une marge de progression possible, envisageable. C'est un objectif que nous devons nous fixer cette année, 2009-2010, jusqu'au prochain Ramadan. J'essaie d'améliorer ma concentration de namaz. Maintenant, si je ne fais pas fadja le dimanche pour X raison ou autre chose, je me dis, j'essaie de faire mon fadja tous les jours. Ça, c'est bien sûr, ça c'est la priorité. Mais si je remplis les conditions concernant la salat, j'essaie de travailler ma concentration de namaz, et cela par le biais de la compréhension, l'étude et la compréhension des sens du Coran. Et en parenthèse, le vendredi, depuis, alhamdoulilah, pas mal de temps, au Latanier, il y a un programme qui se fait le soir de tafsir, et le tafsir des sourates de namaz. Donc si quelqu'un vraiment il a envie de comprendre les ma'an et le Coran, le sens du Coran, il y a une assemblée, un majlis où on est en ce moment, c'est quand même des sourates qu'on lit, soit de namaz isha, soit on ne connaît pas encore. C'est intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Allah il dit aux musulmans à travers le Coran. Donc restez ferme dans la salat. Impensable, inimaginable ce musulman qui est régulier dans ses 5 salats dans le Ramadan et qui après il se décide que le namaz a moins d'importance. Alors que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit as-salatu imadu din, que la salat c'est le pilier de la religion. Quand on parle quelque chose qui est pilier, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est comme si vous avez une tente, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Vous êtes à Arafat, il y a la tente, comme c'est toujours les mêmes tentes qu'il y a 30 ans. Quand vous avez le pylône, le poteau du milieu, quand on dit que ça c'est le imad, ça c'est le pilier de la tente. D'accord? Mais si on dit que bon, on met le pilier juste pendant quelques heures, on retire. La tente ne reste pas élevée. La tente ne garde pas sa forme. Mais si on fait notre salat que durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire un mois sur 12, c'est-à-dire qu'on a accompli notre devoir, on a accompli le 12e de notre devoir durant une vie. C'est ridicule. On a pensé à Allah Azza wa Jal 30 jours sur 360. ce qui fait un douzième. C'est pareil, ce qui fait un douzième. Mais c'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut se présenter un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant son tribunal? Comment est-ce qu'on peut espérer, on peut rêver d'accéder au paradis sans rendre compte? Ou alors comment peut-on rêver qu'Allah ta'ala, hein, il nous juge sans nous poser des questions sur nos péchés, si on se présente devant Allah avec 30 jours de salat par an? Vraiment, il ne faut pas penser qu'on va aller loin. Wallahi, qu'Allah nous protège. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés le jour de Qiyamah, ce sera la salat. Si la salat était complète, alors le reste des comptes sera facile. Mais si dès le départ il y a un blocage dans la salat, alors pour toutes les autres étapes des questions, ce sera difficulté sur difficulté. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Un autre objectif qu'on peut se fixer durant ce mois, après ce Ramadan, je me dis, si j'ai 30 ans par exemple, là j'ai 30 ans, si j'ai commencé à faire namaz il y a 2 ans ou 3 ans, si à l'âge de Balir, Allah ne m'a pas donné le tawfiq de faire, donc j'ai des kazas à faire. Je dois des namaz pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'ai pas fait namaz. Ça, ce n'est pas un objectif, ça c'est une priorité. Je me dois de calculer ou d'estimer qu'est-ce que j'ai raté comme namaz durant ma jeunesse et absolument remplacer ces namaz. Il est plus important, ça va choquer certains, il est plus important de faire 2 rakat kaza fajr que de faire 2 rakat de ishraq. Il est plus important de faire 2 rakat kaza fajr que de faire 2 rakat de tahajjud. Parce que ces 2 kazas là, c'est une dette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tahajjud, ce ishraq, ou même ces sunnat non muakkada, je n'entrerai pas dans la divergence d'opinion sur les sunnat muakkada, quoique à mon niveau, j'estime que faire le kaza, c'est beaucoup plus important que les sunnat muakkada. Même si les ahnaf ont considéré que le fait de ne pas faire mutlaqan, de ne pas faire du tout même les sunnat muakkada, c'est un péché, mais n'oublions pas que retourner auprès d'Allah avec un kaza, c'est une catastrophe. Si d'un côté c'est un péché, mais que je retourne auprès d'Allah avec un kaza, c'est une catastrophe, c'est pire qu'un péché. C'est une dette qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un objectif qu'on doit se fixer. J'essaie de rattraper le maximum de kaza que j'ai pu manquer durant ma jeunesse, durant ma vie. Et les ulama expliquent comment faire le kaza, si par exemple c'est 10, 15 ou je ne sais pas combien d'années on a raté. Si on est incapable de calculer, d'avoir le nombre exact, on fait une estimation, allez, je n'ai pas fait namaz pendant 5 ans, et j'essaie de tenir le compte, hein, et à chaque fois je dis, ben, je fais le kaza du dernier zohor, je fais kaza du dernier asar, du dernier maghreb, ou alors du premier, soit le premier, soit le dernier. Moi, de ce sens, on fait par élimination, du dernier jusqu'au premier, jusqu'à ce que dans notre cœur, on se dise que maintenant, depuis 3 ans, je fais des kazas, je pense que le quota a été atteint. Et puis, s'il y a des manquements, le jour de Qiyamah, Allah aura pitié de nous, et nos nawafil, nos sunnat muakkada, ghair muakkada, mustahab, nafil, tahajjud, ishraq, vont combler les manquements qu'il y a pu y avoir dans les salats. Et pour rester motivé, ça c'est une recette magique. Quand, pour certains, vous avez regardé votre Ligue des Champions samedi, quel jour a fait ça? Inch'Allah. Quand vous avez regardé, même pas fini la phrase, Indiano. Quand vous avez regardé votre Ligue des Champions le mercredi jusqu'à 1h30 du matin, et que jeudi Fajr, c'est dur, namaz, c'est quelle heure samedi? 5h, moi je fais moufia, 5h25, bon là-haut c'est 5h20, 5h15, c'est beaucoup plus bonheur. Si il est difficile de quitter son lit, tout en sachant que ça c'est pas le bon musulman, il connaît que soleil lève 58, il dit bon, ce masla, on reste dans le masla, je peux faire mon amas jusqu'à 5h-5, donc bon, et si un jour, bon, il avait quand même un seuil réel, bon, on peut bien faire un namaz fajr à la maison. Donc, pour nous motiver, pour comprendre l'importance de faire le namaz, là, on parle de namaz en jamaat, mais là, on irait même plus loin pour ceux qui se décident de ne pas faire namaz même, parce qu'ils se sont couchés tard, ou parce que c'est dimanche matin, ou autre chose. On n'a qu'à se dire que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé dans un hadith, que ces 5 salat, khamsu salawatin, iftaradallahu ta'ala ala ibadi, Allah les a rendus obligatoires sur chacun de ses serviteurs. Celui qui les accomplit comme il le faut, avec les conditions, Allah Ta'ala a fait la promesse à cette personne, كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Allah fait la promesse à cette personne de lui faire accéder au paradis. Pour garder la motivation après le Ramadan, de rester ferme dans nos salat, notre prophète a dit, si je fais mon namaz toute l'année, Allah m'a promis le Jannah. Et la suite du hadith, celui qui ne fait pas, qui ne remplit pas ses conditions, n'a aucune promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est grave ça. Et on peut faire la relation avec un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ce musulman qui se présentera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans ses salats ou avec un manquement, j'ai un doute sur l'étiage du hadith, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses salats comme il le faut. Alors le Prophète a dit que Inch'Allah azzabah wa Inch'Allah ghafarala, ou comme a dit alayhi salatu wa salam, Allah Ta'ala peut le pardonner tout comme Allah peut le punir. C'est-à-dire Allah il connaît le cas de cette personne, sa vie, les difficultés, les zourouf comme on dit, et en fonction de ça, Allah il peut pardonner à quelqu'un tout comme il peut punir une autre personne. C'est-à-dire que si je me présente devant le tribunal d'Allah sans mes salats, je ne sais pas où sera ma destinée. Allah il peut me pardonner, mais c'est grave. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu des discours à des personnes, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, et dit, une personne qui m'a dit, en plus c'est quelqu'un d'extrêmement religieux, ça c'est extrêmement grave. Hein? Le souci ça, c'est beaucoup, on se croit religieux, c'est ça le gros problème. On se croit religieux. Alors cette personne dit que, inquiète pas, le jour qui est maintenant, Allah il a dit, tout musulman rentre dans Jannah directement. C'est exceptionnel. Moi je souhaiterais que ça se passe comme ça. Mais malheureusement, les textes ne sont pas en accord avec cette personne dit. Qu'Allah il fait entrer tous les musulmans dans le Jannah bi ghayri hisab. C'est-à-dire, Abu Bakr al-Siddiq, il va rentrer en même temps que moi dans le Jannah. Na'oud billah, pécheur comme nous sommes. Assurément qu'il y a une différence entre celui qui atteint la perfection de la foi, la perfection des actions, et celui qui a des manquements de son iman, de ses actions. Vous voyez? Donc, subhanallah, qu'on comprenne bien que si je me présente auprès d'Allah sans mes salats, tout comme Allah ne peut me pardonner, Allah peut également me sévir, me punir et me faire rentrer au Jahannam. Et ça, personne ne le souhaite. Ça, c'est une motivation pour qu'on comprenne quelle est l'importance de notre salat. Et quand on parle de fermeté, d'istiqama, de constance, c'est également la constance de la lecture du Coran. Dans le mois de Ramadan, venez à Salle des Maghreb, quel que soit le jour, même le dimanche, alhamdoulilah, la masjid retentit de ces murmures de personnes, qui lisent le Coran, alhamdoulilah. Bon, ça c'est exceptionnel, c'est quelque chose de beau, c'est un spectacle magnifique à voir, mais l'envers du décor, c'est qu'après le mois de Ramadan, nos étagères se remplissent du Coran, et nos Corans se remplissent de poussière, et nos cœurs également se remplissent de rouille et de poussière. Et on attend le Ramadan pour prendre un décapant pour enlever tout ça, mais pour qu'on comprenne pourquoi je dois rester ferme dans ma lecture du Coran, je me mets à l'esprit ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit que le Coran ainsi que le jeûne, le Coran ça fait partie des actions, des a'mal qui intercèdent pour le musulman le jour du Qiyamah. Et ce Coran qui va intercéder pour moi, est-ce que, la question que je vous pose, est-ce que c'est un Coran qui est lu un mois sur 12 ou c'est un Coran qui va être lu tout le temps? Pour faire partie des sahibul Coran, des gens du Coran, il faut avoir une lecture régulière du Coran. Je pense que tout le monde peut lire Yassine le matin, tout le monde peut lire Al-Waqi'a, peut lire Tabarak al-Ladhi, peut lire Al-Iflam al-Sijda avant de dormir. Et au-delà de ces lectures qui nous apportent des fada'il, des bienfaits, chaque personne peut lire au moins un sipara, voire un demi, voire un quart de sipara par jour, voire deux rukous par jour. C'est pas difficile. Mais qu'on ait une lecture, que nos yeux gardent un contact avec les écritures qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de la sorte, même si nous ne comprenons pas le Coran, assurément cette lumière pénétrera dans nos cœurs et nous avons cet espoir qu'en lisant régulièrement le Coran, le jour de la résurrection, nous serons appelés parmi les sahibul Qur'an, parmi les gens du Qur'an. Qatada, radiallahu anhu, il faisait un khatmul Qur'an tous les trois nuits durant le mois de Ramadan. Ça, c'est possible, ça, de le faire. Mais ce qui est plus difficile, c'est que wa fi ghayri Ramadan fi kulli sab'a. En dehors, du Ramadan, c'était tous les sept nuits. Ça, c'est plus dur. C'est-à-dire, toute l'année, vous faites un khatam par semaine. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est la différence qu'il y a entre nous et les sahaba, voire les tabi'in. Troisième point, lorsqu'on parle de istiqama, de constance, c'est également la constance de la sadaqa, dans les dépenses, dans le chemin d'Allah. Dans le mois de Ramadan, on donnait, alhamdulillah, pour la masjid, pour les pauvres, pour différentes actions vertueuses. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Il faut savoir que les portes du sadaqa restent ouvertes toute l'année et qu'un des profits directs que nous aurons par la sadaqa éloigne les maladies. La sadaqa éloigne les maladies. Même un sage, c'est un hadith. Oui, un hadith. Le prophète alayhi salatu dit « Wadawaw marubakum bis sadaqa » et soignez vos malades par l'aumône, par la sadaqa. De nos jours, nous voyons les spots publicitaires à propos de la grippe A, les précautions à prendre contre la grippe A. faut faire telle chose, se laver les mains, je ne sais combien de fois par jour, 30 secondes, quand on se mouche dans un mouchoir, il faut jeter, il ne faut pas trop donner la main aux gens, etc., etc., plein de choses, mais ils auraient pu ajouter, donner le monde, donner la sadaqa, ça vous protège de la grippe. Hein, parce qu'assurément, le prophète Aïssa nous a promis que la sadaqa éloigne les maladies, éloigne les calamités, éloigne les malheurs. Celui qui veut avoir toujours al-afiya, la protection d'Allah, ben qu'il donne régulièrement sadaqa. Si on peut donner tous les jours 1 euro, on donne tous les jours 1 euro. Vaut mieux donner tous les jours 1 euro à un pauvre que donner tous les jours 1 euro Canal Plus ou Parabole Réunion. Je vous assure que c'est plus profitable. On n'a pas l'impression de capter autant de choses, mais ce que nos cœurs vont capter, c'est la protection que nous aurons pour notre vie, notre santé, nos enfants, la protection contre les accidents, contre les malheurs, contre les agressions, toutes sortes de choses qu'Allah nous protège, tout ce qui fait peur de ce dunya. Ce sadaqa bi'idhnillah nous éloigne ces balas, ces choses mauvaises de nous, inshallah. Hada. Également, la fermeté concernant les jeûnes, on ne rappellera le jeûne, on ne rappellera jamais assez l'important de 6 shawwal. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith authentique, « Man sama ramadan, thumma atba'ahu sitta min shawwal, kana kasiyami dahr. » Nous le rappelons que ce hadith se trouve dans le Sahih Muslim. Ce hadith authentique qui se trouve dans le Sahih Muslim, dans lequel notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle que ce musulman qui a jeûné le ramadan, et qui, virgule, après le ramadan, jeûnera 6 jours de Shawwal, Allah lui accorde la récompense de l'année entière passée dans le jeûne. Ça, c'est exceptionnel. Et mathématiquement, on peut le prouver. Hein, que, vous savez que dans l'islam, « Manja abil hasanati falahu ashru amthaliha » Quand on accomplit une bonne action, Allah nous en rétribue au moins 10 fois plus. Et le prophète dit « Al-hasanatu bi'ashri amthaliha » Chaque bonne action est rétribuée 10 fois plus. Hadith et ayat qui vont dans le même sens. Alors par un simple calcul de quelqu'un qui n'est pas trop mathématicien comme moi, si nous calculons 30 jours de Ramadan multipliés par 10, ça nous amène à quoi? À 300. L'année lunaire comporte 360. Donc nous avons déjà 10 fois 30 Ramadan, ça fait 10 fois 30 jours de Ramadan, ça nous fait 300 jours de jeûne acquis. Sachant que chaque jour, chaque action multipliée par 10. De 300 pour compléter jusqu'à 360, il nous manque quoi? Il nous manque 60, élémenté à mon cher Rachid. Et pour avoir 60, nous jeûnons les 6 shawwal. 10 fois 6, ça fait 60. 300 plus 360, ça fait 360. Le compte est bon, chiffre des lettres. Voyez, ça nous fait le total de l'année entière, tout entière passée dans le jeûne. Et ce genre de cadeau, Allah n'a pas donné aux Nasara, alors qu'ils avaient eu le jeûne comme nous. Allah n'a pas donné aux Yahoud, alors qu'ils avaient le jeûne comme nous, quand on dit, écoutez, comme a coûté par l'alladine, comme qablikum, le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit aux communautés précédentes, oui, mais l'après Ramadan, ce cadeau d'après Ramadan, c'est uniquement notre communauté qui a eu. Les 6 shawwal, la rétribution, c'est uniquement notre communauté, et c'est là une faveur, on en a 32 minutes, hein, c'est là une faveur exceptionnelle de la part d'Allah Ta'ala. Bien malheureux, ce musulman qui laisse shawwal filer, passer, je dirais même plus filer, perdre Shawwal sans faire ses 6 roses. Wallahi, ça c'est un khassar. Imaginez que vous avez un patron qui vous dit, ben, écoute, viens juste 6 jours de l'année et je te donne le salaire, 6 jours, viens travailler 6 jours durant le mois de octobre et je te donne le salaire de 11 mois. Exceptionnel ce patron. Subhanallah. Et dites-moi où il habite, on va tous travailler pour lui, ce genre de personne n'existe pas. Ce genre de geste, c'est impensable. Mais Allah Ta'ala nous dit, jeûnez 6 jours, je vous donne l'année entière passée dans le somme. Alors celui qui ne profite pas de cette occasion, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé passer un cadeau exceptionnel. Et lorsqu'on se remémore les étapes de l'au-delà, lorsque Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète d'Allah, est-ce que tu seras parmi nous, avec nous, le jour de la résurrection? Le prophète a dit qu'en 3 occasions, personne ne connaîtra son prochain. C'est-à-dire même le prophète alayhi salat wa salam ne connaîtra plus Aïcha sa femme, ni Khadija sa femme préférée, ni sa fille préférée Fatima radiallahu anha. Parmi ces trois moments, il y a, quand on passe le pont Sirat bien sûr, mais parmi ces trois moments où là où on veut en venir à Shahid, c'est lorsque les actions seront pesées, lorsque les actions seront déposées dans la balance, personne ne connaîtra son prochain. Même si nous avons des noces d'or, des noces d'argent, de vermeil, qui ne sont pas toujours merveilles, même si nous avons autant d'années de vie commune, notre épouse ne nous donnera pas une hasana. Notre mari, nos enfants, nos parents, nos grands-parents ne nous donnera pas une bonne action pour nous aider dans l'au-delà. Maintenant, pensez 360 carême qu'on peut obtenir. Et si je fais mes 6 shawwal tous les ans jusqu'à la mort, Allahu Akbar, c'est une vie que j'ai passée dans le saum nafil, dans le jeûne nafil. C'est quelque chose d'exceptionnel en termes de rentabilité, en termes de récompense. Hein, ce qu'on va voir, qu'on va percevoir dans la balance le jour du Qiyamah. Taïb, hada. Également, rester ferme, ça c'est idyllique. Rester ferme de le tahajjud comme on le faisait. C'est vrai que dans Ramadan, on faisait tahajjud parce qu'on se réveillait pour manger. Donc on faisait le tahajjud. Mais si c'est une motivation, ben, qu'on se réveille, on fait tahajjud et on mange. Il n'y a pas de problème. Mais après, vous ferez du sport, même si on dit 5 fruits et légumes par jour. Ben, on ne va pas se réveiller pour manger un carotte et un salade. Mais si, c'est une source de motivation, ben, qu'on fait tahajjud, on mange quelque chose. Peut-être on peut rester motivé. Bref, en résumé, qu'on essaie de garder cette habitude. Si tous les jours c'est difficile, ne serait-ce le jeudi soir, c'est-à-dire la nuit, le matin du Jum'a, on essaie de se réveiller un peu avant Subh al-Sadiq, 10 minutes avant, faire 2 rakat tahajjud, surtout profiter de ce moment pour demander doua à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, à l'origine, on devait reprendre le programme sur les signes de Qiyamah, et on aurait souhaité même compléter. Mais Allah musta'an, on va garder ça peut-être pour la prochaine fois. Alors, il nous reste en fait une seule séance, logiquement, sur les petits signes. On aurait souhaité parler du temps qui passe, qu'il n'y a plus de baraka dans le temps. La deuxième chose, c'est le départ, la mort des personnes pieuses, les ulama, mais également les gens pieux qui vont quitter ce dunya et qui ne seront pas remplacés. Troisième chose, nous restait également à parler des azalazil, les tremblements de terre, des changements qu'il y a dans l'organisation, on pourrait dire des changements climatiques, tremblements de terre, également la transformation de certaines personnes qu'Allah nous protège à la fin des temps, lorsque, comme auparavant, il y avait des gens qui étaient métamorphosés, transformés en porcs ou en autres animaux, cette chose, ce phénomène, se reproduira dans les derniers jours de ce dunya. Vous voyez ? Également, des populations qui seront englouties par la chute de pierres, des chutes de pierres venant du ciel, et que, aisément, je pense qu'on peut interpréter ça par des chutes de météorites. Il y en a une belle qui arrive en 2012 aussi, hein. On voit cette tête qui s'étonne, qu'Allah nous protège. Donc ça fait partie des petits signes de Qiyama, des chutes de pierres venant du ciel qui engloutira, qui écrasera, qui anéantira des populations, tout comme la population de Lout, le peuple de Lout alayhi salam, avait été anéanti, détruit par une pluie de pierres. Et avant, dernier point, ça c'est un constat malheureux, avant la fin des temps, il y aura des gens, des musulmans qui retourneront vers l'adoration des idoles. Et le Fassam a spécifié, hein, parmi ces endroits, il y a même dans la péninsule arabe des gens qui retourneront vers l'adoration des idoles. Ça sera la fin des temps. Et le dernier point pour les petits signes, ce n'est pas le dernier, mais le dernier qu'on citera, ce sera qu'arrivé à une époque où il y aura un tel degré de fitna, de corruption, il y aura tellement de problèmes sur la terre que les gens vont souhaiter être morts. Le musulman, il passera devant la tombe de quelqu'un, il souhaitera être à la place de cette personne qui est décédée, tellement vivre sa foi, tellement vivre dans ce monde avec toutes ses fitnas, toutes ses difficultés, deviendra presque impossible. Là, on peut se poser la question, est-ce que nous espérons encore que cette société inculquera à nos enfants les valeurs morales qui feront d'eux, je ne parle même pas de mon musulman, mais de personnes qui ont une morale objective ou des personnes qui auront des qualités. Si en complément, en plus d'envoyer nos enfants à l'école, ça c'est une éducation, on ne peut pas s'y soustraire, si chaque parent, chaque papa et chaque maman ne se fait pas du souci pour ses enfants, si chacun d'entre nous ne fait pas fikar, comment est-ce que je vais éduquer mon enfant, je vais inculquer à mes enfants les véritables valeurs, je vais le soir avant de dormir ou au repas, je vais lire à mes enfants l'histoire des sahaba, je vais lire Hayat al-Sahaba pour que mon enfant écoute, c'était quoi la vie de Bilal, comment il restait ferme sur son dîn, c'était quoi la vie d'Abu Bakr al-Siddiq, c'était quoi la vie de Ali Yasir, on pouvait faire ce qu'on voulait de ces gens, ils restaient fermes sur l'unicité d'Allah, ils savaient que mourir avec tawhid, avec la foi, c'est mieux que d'avoir tout ce dunya, mais sans le iman. Si nous inculquons pas à nos enfants l'amour pour le dîn, mes chers frères, qui va le faire? Je vous le dis, je vous fais la promesse, je prends l'engagement de vous le dire, à la madrasa, notre enseignement n'est pas complet. Il est impossible de gérer une classe de 25 élèves avec un contact personnalisé. Il est impossible. Lorsque vous avez 30 élèves dans une classe, vous faites c'est de la grande distribution. Vous brassez 30 élèves. Quand vous faites cours, il y en a 5 qui suivent, il y en a 20 qui ne sont pas avec vous. Il est impossible Parce que ce n'est pas comme l'école là. Parce que là, ce n'est pas sanctionné par un diplôme ou autre chose. Là, on donne dès nos enfants. Et dans une classe, tout le monde n'est pas attentif. Certains ils viennent de force ou autre chose. Il ne faut surtout pas s'attendre de la madrasa qu'ils fassent de vos enfants de parfaits musulmans. Nous allons faire notre travail d'enseignant. Nous allons apprendre aux enfants la lecture du Coran, les principes de base, le masal, de l'aqidah. Mais ce n'est pas le molissab qui va faire de vos enfants de parfaits musulmans. Ce n'est pas le molissab qui va faire que vos enfants, il aura de son cœur, parce qu'on n'entre pas dans les cœurs. Pour influencer le cœur d'un enfant, il faut vivre avec cet enfant. Pour que mon discours porte de manière significative sur le comportement de cet enfant, il faut qu'il y ait une proximité avec cet enfant qui dépasse les 30 minutes ou l'heure par jour. Ça, ce n'est pas possible. Cela ne peut venir que des parents. Quand le prophète sallam est avec ce fils d'Ibn Abbas, il dit, oh Ibn Abbas, il est encore un enfant. Hein? Et il dit qu'il y avait des conseils prophétiques. Hein, quand tu as besoin d'aide, demande à Allah. Sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal, il ne pourrait rien te faire d'autre que ce qu'Allah a déjà écrit dans ton destin, etc. Former le iman, former le yaqim, que la confiance de cet enfant soit sur Allah. Qu'il comprenne que si j'obéis à Allah, même si les gens sont contre moi, même si à l'école on se moque de moi, il y a un jeune qui nous interpelle hier, après Namaz Zohar, après Namaz Asar, il y a 4 heures, il dit que, ben, Moussa, on a entendu des hadiths qui dit que le fait de porter le pantalon au-dessous de la cheville, ben, c'est un péché. Est-ce que c'est un hadith ou alors c'est un proverbe ou autre chose? Il dit non, c'est un réel péché. Il dit, ben, d'accord, comment on va faire alors? Moi, je dis, ben, il y a plein de musulmans comme toi, qui sont au lycée et dont Allah a mis sa crainte, sa taqwa dans leur cœur, que ces personnes, même s'ils vont mettre un pantalon jean ou autre chose, le pantalon sera à la limite de leur cheville. Ce genre de notion, cette crainte d'Allah, cet amour permanent pour Allah, cette sensation qu'Allah me voit, ça c'est uniquement les parents qui pourront l'inculquer à leurs enfants par un discours régulier, par un exemple donné par notre pratique, mais également un discours régulier qui forgera la confiance de cet enfant en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un travail énorme à faire, mes chers frères, parce que la société détruit l'éducation que nous, à la madrasa, nous essayons de donner. Si nous avons une heure de contact avec vos enfants par jour, c'est-à-dire 4h30 jusqu'à 5h30, sachez que la société a 8 heures avec cet enfant, juste par la scolarité, la fréquentation de ses amis à la récréation. Et au-delà de ça, de 8h, de 20h jusqu'à 23h, il va regarder la télé, il va zapper, il va regarder plein de choses. C'est 3 heures en plus que la société, que ces valeurs vont être inculquées dans le cœur de ses enfants. Si on fait 8 plus 3, 8, 9, 10, 11, 11 heures de dunya, de fausses valeurs qui vont entrer dans le cœur de nos enfants, en contrepartie une heure avec le molissab, qui lui consacrera 5 minutes dans sa classe, alors qu'on comprenne bien que nos enfants ne sont pas en train de progresser. Même si dans un mois, il était à l'islamie, dans un mois, il est 3e sipara, dans 2 mois, il est 5e, 6e, il a fini son khatam, il a fait son hafez, on a l'impression peut-être qu'il est en train d'avancer dans sa religion, mais qu'on comprenne bien qu'intérieurement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Je ne sais pas. Même si mon enfant, il fait ses 5 namaz par jour, peut-être qu'il le fait par pression ou par habitude, parce que ses amis le font, ou parce qu'il a l'habitude de retrouver ses amis au Maghreb pour discuter. Ça peut être également un lieu de rencontre. Je ne sais pas. Quand mon fils aura 18 ans, quand il aura eu son bac, je l'envoie en métropole pour faire ses études. Il sera à Bordeaux, à Marseille ou quelle que soit la ville. Lorsqu'il sera à la fac, dans l'internat, qu'est-ce qui se passera dans sa tête? Quand il n'y aura plus de surveillance, quand il n'y a plus la présence de papa, ni de maman, ni des grands-parents, ni de la famille, ni du molissab, ni le mahol, ni l'ambiance qu'il y a dans Saint-Denis ou Saint-Pierre ou quelle que soit les villes, quelle sera la réaction de mon enfant? Combien de réunionnais ont fait l'aveu de musulmans que, arrivés en métropole, déjà ils étaient perdus, il n'y a pas de masjid, peu à peu ils ont abandonné la salat, mais même pire, il y a un jeune qui a expliqué à un de mes amis, et ça c'est déchirant, il dit qu'à un moment donné, il y a peu ou pas de manger halal, à un moment donné ce jeune se décide que maintenant je me décide de ne plus manger halal, et il commence à aller au McDo, il commence à manger McDo, haram, tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui blesse. Ça, c'est quelque chose de déchirant. Donc, chaque parent doit prendre conscience du travail qu'il a à faire, qu'on a à faire sur nos enfants pour les inculquer les valeurs que l'islam nous a inculquées. Qu'Allah t'en tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et nous rappelons que durant le mois d'octobre, le dernier week-end de ces vacances d'octobre, il y aura le EADJ, le rendez-vous des jeunes musulmans, qui se fera comme l'année dernière à Saint-Pierre. L'année dernière, il y avait entre 450 et 500 jeunes, tout compris jusqu'au samedi soir, qui ont répondu présents à ce grand rassemblement qui rassemble tous les jeunes de 15 à 25 ans de toutes les villes de la Réunion. Cette année, c'est la deuxième édition et nous aurons la chance d'avoir des intervenants venant de l'extérieur, francophones bien sûr, qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes des quartiers. C'est une expérience qu'ils vont nous amener. C'est des acquis qu'ils ont que nous, à La Réunion, nous n'avons peut-être pas. Donc, nous encourageons nos enfants qui ont entre 15 et nos plus jeunes, qui ont, nos adolescents qui ont entre 15 et 25 ans, de s'inscrire auprès de la Moulissa, de la Madressa, pour participer à ce rendez-vous des jeunes qui aura lieu dans le dernier week-end des vacances du mois d'octobre 2009. Qu'Allah Ta'ala, il fasse de ce rassemblement un moment de réussite, que notre message puisse passer, que la risala, le message que le prophète a transmis à sa ummah, puisse être transmis à nos jeunes, car mes chers frères, nos jeunes sont l'avenir de notre religion. Ce sont les parents de demain. Aujourd'hui, nous avons une belle mosquée, nous avons un house magnifique, nous avons tout ce qu'il faut, parce que cette mosquée est entretenue, parce que nous avons des gens qui ont le fikal de la masjid. Mais si on fait tourner l'horloge 50 ans, 60 ans après, Allah seul sait, est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront dans leur cœur le fikar de la masjid, le fikar de la transmission de la religion à leurs enfants. Nous avons quelque chose, c'est un sujet à part, nous avons quelque chose dans notre communauté qu'aucune communauté n'a. Ça c'est quelque chose dont on doit en être fier, c'est le nombre de jeunes qui va à l'étranger pour apprendre la connaissance religieuse. Tellement il y en a un moment donné, j'ai dit, ben, jusqu'à quand de Moulissa fait Moulissa ? Il a dit, combien l'islam n'aura besoin? C'est vrai qu'il y a même du chômage dans ce travail. Il y a des gens qui ne trouvent pas de travail ou qu'on ne donne pas ou autre chose. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, oui, mais jusqu'à quand il y a des gens qui vont faire un alim? Mais quand on réfléchit un peu, dans d'autres religions, ils ont du mal à trouver un jeune qui va se spécialiser pour l'étude de la théologie. Qui c'est qui veut aller apprendre en France 5 ou 6 ans pour revenir habiter dans une maison close où il n'y aura pas de vie de famille ou autre chose, juste pour prêcher le dimanche c'est difficile. Dans certaines religions, ils n'ont plus de personnes pour officier. Et nous, alhamdoulilah, il n'y a jamais une époque à l'île de la Réunion où il y a autant de jeunes, et c'est en progression permanente, alhamdoulilah, autant de jeunes qui consacrent leur vie pour la connaissance religieuse et qui vont revenir, qui vont enseigner le dîn à nos enfants. Ça, on doit en être fiers. C'est un acquis que nous avons là, alhamdoulilah, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons faire des efforts pour que nos enfants aient un contact régulier avec ces ulama, pour la plupart qui ont été au lycée comme eux, et qui pourront comprendre mieux ces enfants que quiconque. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.